2, versets 1 à 13. Vous voyez ? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthe, Mède et Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans les langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Aujourd'hui, on fête la Pentecôte, et la Pentecôte pour les chrétiens, on n'entend pas ? On m'entend ? C'est mieux ? J'entends les bonnes. Bon. Pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est la création de l'Église et la réception du Saint-Esprit. Et j'aimerais en parler un peu ce matin. L'Église a commencé à un moment et on voit qu'elle s'est étendue très loin. Et j'espère qu'elle va encore plus s'étendre. Mais il y a un début et c'est la Pentecôte. Mais avant que la Pentecôte ait lieu, il a fallu d'abord que Jésus-Christ aille sur la croix, qu'il meure pour nos péchés, à cause de nos péchés, qu'il ressuscite aussi au bout de 3 jours, et finalement qu'il rejoigne le Père. Et il avait promis le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et sans ce Consolateur, je pense que l'Église n'aurait jamais pu être bâtie. On voit bien les disciples, après que Jésus soit crucifié, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés évangéliser ? Ils sont barrés, oui. Cachés, ils avaient peur. Et on aurait fait exactement la même chose parce qu'on avait besoin justement du Saint-Esprit. Et j'aimerais ce matin qu'on considère un peu l'Église, parce qu'on vient tout le temps à l'Église, mais on ne sait peut-être pas d'où on vient exactement. Qu'est-ce que l'Église ? Je ne peux pas rentrer trop dans le détail à cause du temps et ce n'est pas le propos, mais on va un peu s'intéresser à Actes. Alors qu'est-ce que la Pentecôte ? Alors d'abord, pour le juif, c'était autre chose que pour nous aujourd'hui. La Pentecôte désignait le 50e jour après la Pâque. Et j'ai un plan, tu peux juste me le mettre. C'est le calendrier juif, en fait. Et vous voyez, c'est le premier mois de Nisan pour les juifs. Et à partir de la fête de Pâques, vous comptez 50 jours et vous arrivez, en fait, à la fête de Pentecôte. C'est juste pour que vous ayez un petit repère. Ça, c'est le calendrier juif avec toutes les fêtes, en fait, qui existent chez eux. Mais on ne va pas les apprendre par cœur ce matin. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. La Pentecôte, ça désigne donc le 50e jour. On l'appelait aussi la fête des semaines, des prémices ou des moissons. Elle était fêtée donc 7 semaines après l'offrande de la gerbe, qu'on a vu tout à l'heure, les prémices. On faisait alors à ce moment-là une offrande de 2 pains et un sacrifice de 10 animaux qu'on devait faire à ce moment-là. 7 agneaux d'un an, 1 jeune taureau et il y avait aussi 2 béliers à offrir. Ça, c'était sous la loi, avant que l'Église naisse. On l'appelait aussi la fête des moissons, c'était la fin d'une année de travail et là, on fêtait tout cela. On faisait une espèce d'offrande de reconnaissance aussi à Dieu. Et c'était surtout un jour de réjouissance. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui parce que c'est la Pentecôte ? Alors, pas cette Pentecôte-là, mais parce que Jésus a créé l'Église. Ça vous réjouit ou ?
Oui.
D'accord. Ça vous réjouit pas. Mais à l'époque, ils fêtaient et ils étaient heureux de fêter cela parce qu'ils étaient reconnaissants vis-à-vis de ce que Dieu leur avait donné. Pour certains rabbins, c'était aussi le souvenir de la loi mosaïque quand ils avaient reçu sur le mont Sinaï la loi par Moïse. Donc, c'était un jour de joie. Pour nous, évidemment, c'est plus la même chose. À ce moment-là, vous avez vu, il y a 15 de pays qui sont réunis là pour aller à Jérusalem et pour fêter cette Pentecôte-là. Il y avait du monde, à mon avis, à ce moment-là, dans la ville. La Pentecôte, pour le croyant, ce n'est pas la même chose. On l'a dit, c'est l'inauguration de l'Église, le commencement de l'Église. Il y a plus de 2000 et des poussières, l'Église a commencé. Et on a vu, ils étaient tous ensemble, là, dans un même lieu. Et moi, je trouve ça encourageant parce que ces chrétiens étaient ensemble. On a tendance un peu à être chacun dans notre coin, mais eux avaient tendance à se mettre ensemble. Alors vous allez me dire, c'est le début, c'est normal. Oui, mais ils étaient quand même souvent ensemble. Ils étaient dans une maison, nous dit le texte, qui est certainement proche du temple. On ne sait pas exactement où ils étaient. Il y avait les 12 disciples et 120 personnes environ. Hein, donc, il y avait du monde dans cette chambre. Ce n'est pas les petites pièces qu'on peut connaître. Hein. On ne pourrait pas les mettre ici, par exemple. Et on voit qu'à cette Pentecôte, il y a une réalisation prophétique qui va s'accomplir, parce que Jésus lui-même, en Matthieu 16, 18, avait dit, et moi, il disait ça à Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il avait annoncé la création de l'église, et c'est le jour de la Pentecôte, justement, que cette prophétie, on pourrait dire, a été totalement accomplie. Mais il fallait d'abord que Jésus accomplisse son œuvre de grâce pour que nous puissions intégrer cette Église. Et l'Esprit a été aussi prophétisé, on voit plusieurs passages, hein, par exemple dans Actes ou ailleurs, Joël, alors que tout n'est pas encore accompli par rapport à Joël, mais ça a été aussi annoncé que l'Esprit devait venir, le Saint-Esprit devait venir sur les chrétiens. La Bible parle du Saint-Esprit comme étant une puissance, et je pense que cette puissance, si on ne l'avait pas en tant que chrétien, on ne pourrait rien faire. On ne pourrait pas évangéliser, on ne pourrait pas avancer dans notre vie. Dans ce sens-là, elle fait aussi des fois des miracles. Hein. C'est une puissance et un consolateur aussi. Jésus l'avait annoncé. Nous avons en nous, pour ceux qui sont nés de nouveau, hein, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, le consolateur qui est là pour nous faire du bien tous les jours, nous corriger aussi en même temps, hein, parce que des fois on dévie et il nous ramène un petit peu. Et dans 1 Jean 2, 1, il est parlé d'un avocat, mais c'est le même mot paraclé en fait, en grec. Et non seulement il est une puissance, il est un consolateur, et il est aussi mon avocat. C'est-à-dire que quand il m'arrive de chuter, ben, je peux saisir mon avocat, c'est gratuit pour une fois, hein, et on peut demander pardon au Seigneur, et lui va me rétablir dans ma vie. Voilà un peu ce qu'il fait dans la vie du chrétien. Mais sans l'Esprit, on n'aurait rien pu faire. Et je dis ça parce que souvent on dit « Ah, mon Église grandit grâce à nous, grâce à notre évangélisation, grâce à ce que nous faisons, ça grandit. » Mais honnêtement, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je pourrais parler en l'air, ça ne servait à rien. Toutes les missions n'existeraient pas non plus. Donc la Pentecôte marque l'inauguration de l'Église, et dans 1 Corinthiens 12, 13, il y a ce verset qui parle du baptême du Saint-Esprit, seul verset qui en parle. Il dit « Nous avons tous en effet été baptisés, hein, j'insiste sur le « tous », été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Le baptême du Saint-Esprit s'est accompli le jour de la Pentecôte, une fois pour toutes. Et tous les chrétiens, tous ceux qui étaient nés de nouveau, ont intégré en fait le corps de Christ. Si on est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on fait partie du corps du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Si je suis dans l'Église, ça veut dire que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Hein. Et il dit, nous avons tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui étaient nés de nouveau, ont été baptisés du Saint-Esprit. Et on voit que ces langues hein, se sont déposées sur tous, parce que tous étaient nés de nouveau et tous étaient en train d'attendre justement cette promesse à ce moment-là. Et toutes les personnes qui étaient là, qui étaient chrétiennes, ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on ne va pas le chercher à droite ou à gauche, ça a été fait une fois pour toutes. Comme Jésus-Christ est mort une fois pour toutes sur la croix, aujourd'hui, dès que je me convertis, je profite en fait de sa grâce. Et pareillement, à partir du moment que je nais de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'intègre l'Église et je fais partie du corps de Christ. Donc la Pentecôte pour nous, c'est le moment de se rappeler qu'il y a environ 2017 ans, je sais, non même peut-être un peu moins, un peu plus de 2000 ans, ben, l'Église a été fondée hein, et depuis elle s'est répandue dans le monde entier. Vous imaginez, ils étaient 120 au départ, un peu plus de 120. Aujourd'hui, on est combien de millions hein. Et, bon, il a fallu la persécution parce que les chrétiens étaient bien ensemble au début dans Jérusalem. Hein. Bon, ils seraient bien restés comme ça, mais le Seigneur avait demandé d'aller par-delà le monde. Et à un moment, il a envoyé la persécution et les chrétiens se sont dispersés dans le monde. On voit qu'il s'est passé des événements à la Pentecôte. On pourrait parler de manifestations auditives et visuelles. D'abord, on va s'intéresser à celle auditive. Hein. Il vint du ciel. À un moment, d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette chambre. Pourtant, le Seigneur leur avait dit « Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit ». Ils devaient s'attendre à quelque chose. Mais ça a dû les surprendre. Je pense que nous aussi, on aurait été surpris. Hein. Il parle d'un bruit comme un vent impétueux. On ne parle pas là d'un climat, il a dû se passer quelque chose d'assez spécial. On ne peut pas vraiment tout décrire, mais il y avait une action surnaturelle à ce moment-là. Le mot « vent », en fait, dans le grec, et le mot « esprit » ont la même racine, qui veut dire « souffler ». Et donc, quand on voit ce vent qui est venu, en fait, c'est le Saint-Esprit, quelque part. C'est symbolisé par le vent. Dans Jean 3, 8, par exemple, il dit, quand Jésus s'adressait à Nicodème, il disait « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va ». Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il y a vraiment un lien entre ce vent et le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est arrivé, a surpris un peu, on pourrait dire, ses premiers chrétiens, et il est venu baptiser, en fait, l'Église. Il a rempli toute la maison. Il n'est pas allé sur certaines personnes. C'est ça qu'on oublie. Il a rempli toute la maison et toute l'assemblée a été touchée par ce baptême du Saint-Esprit. Il y avait une manifestation visuelle. Alors, je reste sur ce que dit la Bible, je n'irai pas plus loin, mais parler là de langue de feu qui s'est séparée, qui s'est posée sur tous les chrétiens qui étaient là à ce moment-là. Je ne sais pas si vous pouvez les appeler vraiment chrétiens encore, mais tous ces gens qui étaient là. Le feu dans la Bible, ça symbolise la présence de Dieu. Par exemple, vous souvenez Moïse qui va s'approcher du buisson ardent, présence de Dieu. Vous aviez la colonne de feu aussi qui a accompagné les Juifs hors de l'Égypte et qui les a éclairés et qui les a accompagnés. Le feu, c'est la présence de Dieu. Et au travers de ce Saint-Esprit qui était posé là, c'est tout simplement la présence de Dieu qui allait se manifester par son esprit maintenant dans le chrétien. J'insiste sur le fait que c'était une expérience commune. C'était pas un ou l'autre qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit à ce moment-là, c'est tout le monde. Il est dit que le Saint-Esprit se posa sur tous. C'était un acte collectif et non pas individuel. Parce qu'aujourd'hui, on nous pousse à avoir ce baptême de l'Esprit, on va dire, de façon individuelle. Ça a été fait une seule fois pour toutes et il n'y a pas à le chercher de nouveau. Il faut naître de nouveau, il faut se convertir pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. C'est ce que dit Acte 2, par exemple. C'est par la repentance qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est par la foi aussi qu'on est scellé du Saint-Esprit une fois pour toutes. Et quand on est scellé de quelque chose, Éphésiens 10, c'est le gage de ma rédemption. C'est-à-dire, à partir du moment que j'ai le Saint-Esprit en moi, je sais qu'un jour je serai avec le Seigneur, j'aurai un nouveau corps, etc., etc. Donc c'est un acte unique, collectif, et que, comment dire, tout chrétien va recevoir, on va dire, à partir du moment qu'il naît de nouveau. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher aujourd'hui absolument, ou comme une deuxième expérience. Verset 4, il est dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Moi, j'aimerais faire une remarque, c'est d'abord qu'ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit avant de commencer à parler en langue. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui place le croyant dans le corps de Christ. On l'a dit dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit français, on va dire, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc le croyant reçoit le Saint-Esprit à cause de sa foi, pas parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. À cause de sa voix, de sa foi. Par contre, et c'est là où on confond souvent les deux, entre le baptême et être rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui cherchent à être rempli du Saint-Esprit pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais ça n'a rien à voir du tout. Être rempli du Saint-Esprit, c'est simplement vivre une expérience continuelle d'obéissance dans la foi. Quelqu'un qui naît de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, il a deux choix. C'est soit marcher fidèlement avec le Seigneur, et là, il se sentira plein de joie, il sera rempli, on pourrait dire, du Saint-Esprit. Par contre, s'il marche dans le péché, etc., forcément, le Saint-Esprit va lui tirer un peu les oreilles, on va dire, et va lui dire « tu n'es pas dans la bonne voie ». Et forcément, il ne sera pas rempli. Mais le Saint-Esprit ne le quitte pas ou vient ou pas. Il est là, mais on a une relation différente avec lui, selon ma manière de marcher avec le Seigneur. Je faisais la remarque qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit avant de parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut parler en langue pour démontrer qu'on a le Saint-Esprit. Là, le texte dit l'inverse. Il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue. Donc, le parler en langue n'est pas un signe de la réception du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Ils avaient d'abord le Saint-Esprit, puis ensuite, ce parler en langue, qui est un don, un charisme, on en parle un peu plus tard dans la Bible, est venu ensuite. Mais il fallait d'abord avoir le Saint-Esprit. Et puis bon, pour ceux qui aiment un peu le grec, on emploie là un temps qui s'appelle l'aoriste, qui est un temps de l'action accompli à un moment précis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est baptisé, c'est fait. Ça ne bouge pas. Ils étaient remplis une fois pour toutes, et ce n'est pas une seconde expérience qu'il faut aller chercher. À partir du moment que vous êtes né de nouveau, que vous êtes repenti, que vous avez accepté que vous êtes pécheur, vous avez accepté que Jésus est votre Seigneur, vous avez été reçu ce baptême, vous avez été plongé, on pourrait dire, dans ce baptême, vous avez intégré l'Église, et en même temps, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est à vous de voir la relation que vous voulez avoir avec lui, tout simplement. La Bible ne demande non plus jamais, parce qu'il n'y a aucun verset, qui demande aux chrétiens d'être baptisés du Saint-Esprit. Par contre, elle demande d'être rempli du Saint-Esprit. C'était d'ailleurs d'avoir une relation correcte avec cet hôte, on pourrait dire, qui est dans le chrétien, dans la relation qu'on va avoir avec lui. Il dit, ils parlent des langues différentes des leurs. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, mais pour celui qui lit correctement le grec, en fait, on pourrait dire qu'il parlait des dialectes autres. On ne parle pas là d'une langue un peu bizarre, on ne sait pas d'où elle vient. En fait, le jour de la Pentecôte, ils ont parlé des dialectes. Ces chrétiens se sont mis à parler des dialectes. Et ces juifs qui étaient venus là des 15 pays, qui ont reconnu en fait la langue. C'est un peu comme si moi j'étais là-bas et que j'ai reconnu l'alsacien, puisque je suis alsacien. Enfin, je ne parle pas, mais je connais. Et en fait, il n'y avait pas une langue bizarre où elle était compréhensible. Et elle était comprise justement par ces juifs qu'on pourrait dire qu'ils étaient les premiers interprètes en fait, du parler en langue. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on parle la langue des anges ou une langue je ne sais pas d'où. Seulement, quand vous regardez dans la Bible, les anges, chaque fois qu'ils se sont adressés à quelqu'un, ils parlaient la langue de la personne. J'imagine toujours Abraham qui reçoit trois anges, dont l'ange de l'Éternel. S'il venait avec un shabbala ou je ne sais pas quoi, je ne pense pas qu'Abraham les aurait accueillis. Il aurait dit, écoutez, vous êtes un peu bizarre. Les anges parlent notre langue. Et bon, pour rajouter, il faut dire que Paul, enfin, on pense que c'est Paul qui a été ravi au 3e siècle, il dit dans 2 Corinthiens, si je me souviens bien, il a entendu des choses ineffables dans le 3e ciel, certainement, peut-être des anges qui ont parlé, mais il a dit, il n'est pas permis de le répéter. Donc si éventuellement ils avaient un autre langage, peut-être, mais Paul a dit, ne parlez pas. Donc ça donne deux arguments assez solides pour se dire que se parler en langue à l'époque de la Pentecôte était un dialecte, quelque chose d'absolument compréhensible par d'autres. Et là, ce peuple qui était là, qui entendait ces chrétiens, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. C'est vrai que jusqu'à présent, on lisait peut-être l'Ancien Testament dans l'hébreu, etc. Et là, d'un seul coup, on entend dans plusieurs dialectes les merveilles de Dieu. Et moi, ça me fait penser à Babel. Vous vous souvenez de Babel ? Dieu va punir l'homme parce qu'il était en train de se faire un tour, parce qu'il voulait monter jusqu'au ciel. Et Dieu va envoyer plusieurs langues, et c'est un jugement. Et finalement, voilà pourquoi on parle alsacien, français et je ne sais pas quelle autre langue. Ça serait tellement plus simple si on pouvait se comprendre, n'est-ce pas ? Pas besoin d'apprendre une langue. Mais la Pentecôte, quelque part, c'est l'effet inverse. Ça unit les hommes, puisque à ce moment-là, ils se comprenaient, quelque part. Bon, on ne se comprend toujours pas avec les langages. Mais à ce moment-là, c'était un peu l'aspect inverse, c'est Dieu réconcilier en fait, tout le monde avec lui, d'une certaine manière, au travers de ce don-là. Donc la Pentecôte inaugure la réception du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'il a été donné une fois pour toutes. Il n'y a pas à le chercher ailleurs ou pas. Il faut naître de nouveau pour le recevoir. Et ça a inauguré et l'Église et la réception de ce Consolateur, sans qui je pense qu'on ne pourrait pas faire grand-chose en tant que chrétien. C'est quand même bien d'avoir le Saint-Esprit au fond de nous, qui de temps en temps nous... petite baffe. On remet droit dans le chemin, parce que si on n'avait pas ce consolateur ou ce guide, je crois qu'on serait bien, bien, bien loin du Seigneur, bien souvent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le parler en langue avait aussi un but, et ça, bien souvent, on l'ignore. J'aimerais qu'on lise dans 1 Corinthiens 14, les versets 20 à 22. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 20 à 22. C'est l'autre fameux grand passage qui parle du parler en langue, où Paul est en train de faire un contraste entre la prophétie, qui est plutôt une exhortation, et le parler en langue. Vous aviez une église qui voulait que parler en langue, mais le problème c'est que il valait mieux exhorter les chrétiens pour qu'ils deviennent des vrais chrétiens, plutôt que de parler en langue tout le temps, mais il était là. Donc. Verset 20 dit Paul, « Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Et il revient à la loi, en fait. Il dit, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et j'insiste sur ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, rien à voir pour l'Église, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, l'exhortation, l'encouragement, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. On se demande pourquoi Paul met en plein milieu là cette prophétie qui se retrouve en fait dans Ésaïe 28, 11, où il est dit « Eh bien, c'est par des peuples aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Et dans le contexte, Dieu est en train de parler à ce peuple d'Israël qui se révoltait constamment contre Dieu dans l'idolâtrie, leur péché, etc. et qui dit que « Je vais vous envoyer un peuple avec une langue étrangère qui va vous juger. » Et si vous connaissez la loi, dans Deutéronome 28, 49, il est dit « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » En d'autres termes, si tu pèches, j'envoie les pays voisins pour vous punir. Et vous connaissez évidemment Israël qui a été puni, qui a été détruite, on pourrait dire, par Nebuchadnezzar, envoyée en Assyrie et ailleurs là-bas. Ils ont été punis. Et en fait, pour un juif, quand il entendait venir une langue barbare quelque part, il savait qu'il va y avoir un jugement. Et c'est pour ça que Paul le met là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est un signe pour les non-croyants. C'est pour moi, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, il faut définir ce qu'est le non-croyant. Alors, j'ai insisté sur ce peuple, dans le verset 21. Quand je parlais à ce peuple, en fait, Paul dit qu'autrefois, de la même manière qu'aujourd'hui, puisque les Juifs ont rejeté Jésus, il va punir, en fait, ce peuple. Et le parler en langue, quelque part, était un signe de ce jugement qui devait venir. Si vous regardez dans le verset 23, par exemple, pour définir qui est ce non-croyant, au verset 23, il dit « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs, et puis d'un coup, il distingue et des non-croyants. » Il distingue deux genres de personnes qui venaient dans l'Église. Alors, les simples auditeurs, en grec, je suis désolé, mais c'est « idiotes », mais en fait, ça veut dire « autochtone », on pourrait le traduire comme cela. Et il distingue les autochtones, c'est-à-dire ceux qui sont de Corinthe, avec ces non-croyants qui sont finalement, quelque part, les Juifs. Et donc, il est en train de dire, il y a là, dans le parler en langue, un signe et un jugement qui doit être compris par les Juifs, parce que maintenant, on parle dans une autre langue. Et en même temps, Dieu montre au peuple juif qu'il va rejeter Israël, parce qu'eux-mêmes ont rejeté le Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie, mais il est arrivé il y a bien longtemps. Mais il va y avoir un jugement, et se parler en langue, en fait, démontrait justement que ce jugement allait arriver. Et le but va être atteint, puisque en l'an 70, les Romains, avec Titus, va arriver et va envahir Jérusalem, va détruire Jérusalem et va détruire le temple. Et depuis plus de 2000 ans, les Juifs étaient dans la diaspora. C'est qu'en 1948 qu'ils ont de nouveau eu un pays. Mais pendant plus de 2000 ans, ils ont été punis parce qu'ils ont rejeté le Messie, tout simplement. Et donc le signe, se parler en langue qui est un signe, qui a un but, un objectif en fait, ce but a été atteint dans les années 70. Et au fur et à mesure que le temps passe, on n'entendra plus parler en langue au IIe siècle environ. Les pères de l'Église n'en parlent plus du tout dans tous leurs écrits. C'est quelque chose qui a disparu. Tout simplement parce que dans 1 Corinthiens 13, 8, c'est juste un petit peu avant, il est dit « L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » En fait, quand le parfait va venir, maintenant on va le définir, la connaissance et la prophétie vont s'arrêter net, parce qu'il y a deux verbes en grec ici, quelque chose qui s'arrête net. Par contre, le parler en langue, c'est quelque chose qui s'éteignait par lui-même. Une fois que le but était atteint, une fois que le jugement a été prononcé et fait, c'est pas à peine de parler en langue, puisque vous parlez pourquoi ? Le jugement est fait, il n'y a plus besoin d'en parler. Ça a été tout simplement accompli. Et le parfait, c'est la formation du canon au 1er siècle, environ à peu près à la fin du 1er siècle, où toutes les lettres de Paul, toutes les lettres qui ont été écrites ont été réunies et on a enfin la Bible. On n'a plus besoin d'avoir de paroles de connaissance, de prophéties, etc., parce que la Bible est largement suffisante. Dieu ne nous demande pas plus que cela. Donc, ces langues ont cessé, tout simplement, parce que le but a été atteint, le jugement des Juifs. Donc le but du parler en langue était d'annoncer ce jugement des Juifs incrédules. Alors aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, mais un jour le Seigneur va venir, il y a une partie d'Israël qui va se convertir, il y a aujourd'hui encore des Juifs qui se convertissent, heureusement, merci Seigneur. Mais à un moment, quand Jésus, c'est dans Zacharie, va revenir poser ses pieds à Jérusalem, une partie des Juifs vont reconnaître celui qu'ils ont percé parce qu'ils vont voir les trous dans ses mains. Et je ne sais pas, moi j'imagine un Juif qui a rejeté Jésus pendant des milliers d'années, et qui d'un coup se rend compte que c'était le Messie et qu'on l'a crucifié. C'est terrible quand on y pense. Mais ça va être, je pense, la plus belle des repentances à ce moment-là, parce qu'une partie va se convertir. Mais nous-mêmes, en tant que non-croyants, je pense que dans notre vie, on a rejeté Dieu, on n'en voulait pas. Oh, vous ne parlez pas de Dieu, moi ça me saoule. C'est fatigant. J'étais comme ça autrefois. Moi, j'écrivais contre Dieu carrément, parce que je n'avais rien compris. Mais quand on voit l'amour de Jésus-Christ pour moi, hier, on a parlé de la doctrine du salut, et il faut imaginer que bien avant qu'on soit né déjà, Jésus avait accepté d'aller mourir sur la croix pour des gens qui allaient le détester, au moins au départ. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes prêts à mourir pour moi qui vais vous détester ? Sans le savoir si je vais vous aimer un jour. On n'est pas prêt à faire ça, mais Jésus l'a fait. Et Voilà, autant ces juifs vont un jour se convertir, mais aujourd'hui beaucoup de gens, de la même manière, ont rejeté Dieu. Mais il y en a qui prennent le temps de lire la Bible, il y en a qui prennent le temps d'écouter et qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Et cette église grandit, grandit aujourd'hui. De plus en plus, peut-être pas, mais de mal, je dirais. Mais la vraie église, elle n'est peut-être pas aussi nombreuse que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est né de nouveau. Il faut faire la différence. Il ne s'agit pas simplement de croire en Dieu, il s'agit d'obéir aussi à Dieu. Parce que les démons croient, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Et puis on peut voir encore dans cette formation de l'Église, c'est que Dieu a fait l'Église, ce n'est pas simplement pour avoir un bâtiment, venir le dimanche, chanter et repartir pour manger. Il a des intentions. Et on va les résumer, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais dans 1 Corinthiens 3,16, il dit « Il a créé l'Église pour former un temple spirituel ». Le temple, pour ceux qui connaissent la Bible, rappelle l'endroit où Dieu habitait. Il a habité d'abord dans un tabernacle. Alors, Dieu n'est pas dans le tabernacle, mais c'était symbolique. Puis il est venu dans le temple, mais il est parti à un moment parce qu'Israël péchait. Mais aujourd'hui, Dieu habite par le Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas si on l'a réalisé, ça, des fois. Dieu est en moi, par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire quand il réfléchit. Alors, essayez pas de vous disséquer tout à l'heure pour savoir où c'est. C'est spirituel, on est bien d'accord. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si je prends conscience de cela, ma façon de vivre devrait changer. Je ne fais plus la même chose. Je ne regarde plus les mêmes choses. On est bien d'accord. Parce que je sais que Dieu est là. Et en même temps, il dit, parce qu'il y a un autre passage qui dit que l'Église elle-même est une habitation aussi de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, il veut nous rappeler que nous sommes ce temple où il habite, entre guillemets. Et si je sais que Dieu est dans l'Église, dans ma personne, ma façon de vivre, de me comporter va complètement changer. On est bien d'accord. C'est aussi pour former une maison de Dieu, on voit ça dans Éphésiens 2, 1 Timothée 3, un lieu où Dieu est le maître. Je ne sais pas s'il est toujours le maître dans l'Église. Le maître, pour le respecter en tant que maître, on dit souvent « Jésus est mon Seigneur », mais je fais ce que j'ai envie. Un Seigneur, on lui obéit normalement. Mais il est le maître de l'Église, ce n'est pas le pasteur, je vous rassure, ou le conseil, ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Et s'il est le chef de l'Église, c'est aussi lui qui dicte, on pourrait dire, les règles de vie, la manière d'être, etc. Et quand on sait que dans 1 Corinthiens 14, justement, il dit que Dieu est un Dieu d'ordre, il attend quelque chose. On ne vient pas n'importe comment à l'Église, ni la manière d'être habillé, ni avec son cœur, je ne sais pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Même pour l'heure, les retards. Dieu est un Dieu d'ordre. J'en profite. Mais oui, mais... Moi, je vous le dis, ça vous passe au-dessus. Mais un jour, c'est Dieu qui vous le dira. Là, ça sera moins drôle. Voilà. Parce que c'est sa maison. Quand on vient à l'église, on va voir Dieu. Ce n'est pas moi, ou Rémi, ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu qu'on vient voir. Et c'est devant lui qu'on se présente, et c'est ce Dieu d'ordre, ce Seigneur, ce Maître, comme on l'appelle bien souvent. Ça nous passe un petit peu au-dessus, hélas. Et puis, une deuxième chose, donc, c'est Dieu qui veut mettre les croyants maintenant au travail. Vous aimez travailler ? Il y a deux missions, on pourrait dire. D'abord, la mission vers l'intérieur. On a dit, Jésus-Christ est le chef de l'Église, et normalement, les croyants devraient lui obéir. Et quand on obéit à Dieu, normalement, on se met à servir le Seigneur. Alors, chacun a une mesure différente de l'autre, parce que chacun a un don qui est différent aussi. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est savoir, est-ce que je suis, moi, actif dans l'Église ? Est-ce que je sais ce que Dieu veut pour moi dans l'Église ? Ou alors, je viens, je m'assois, spectacle ? Puis je repars. Voilà. C'est pas ça l'Église, c'est pas ça être chrétien dans une Église. Je veux obéir au Seigneur et je veux le servir, c'est lui qui me demande. Il a donné des dons à chacun. Alors on avait vu qu'à l'époque il avait donné le don de parler en langue, mais dans 1 Corinthiens 12, 11, il dit c'est l'Esprit qui distribue à chacun comme il veut. Si tout le monde parle en langue aujourd'hui comme on peut le voir, c'est pas l'Esprit qui l'a distribué. Parce que d'abord, dans 1 Corinthiens 14, c'était 1, 2 ou 3 au maximum, pas plus, mais c'est pas à moi de chercher quelque chose que le Saint-Esprit veut pas pour moi. Je peux pas m'imposer quelque chose. C'est l'Esprit qui me donne le don de faire ci, d'être missionnaire, d'être, je sais pas, il y a tellement de choses à faire dans une église. Ça veut dire que je dois m'arrêter aussi en tant que chrétien et me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Mais il faut s'arrêter aussi. Ou alors, on peut aller demander au pasteur, pourquoi pas? On peut essayer. Moi, je pense qu'à un moment, il faut essayer dans certains domaines. Et puis, on verra bien si le Seigneur... dit oui ou non, je prends toujours l'exemple. Quand j'étais à Arles, je m'occupais de la chorale et j'avais un jeune qui chantait comme une casserole, si encore une casserole peut chanter, et il voulait intégrer l'église. Je veux me mettre au service. Hein, je veux servir le Seigneur. Il dit, écoute, tu vas prendre un mois, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur si c'est vraiment ton don. J'ai prié de mon côté, et puis au bout d'un mois, il est venu, il m'a dit, bon, je crois pas que je sois fait pour la chorale. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que... mais après, il a trouvé son domaine, et il a servi le Seigneur très bien, fidèlement, dans ce que le Seigneur avait préparé pour lui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a préparé pour vous? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Priez, demandez à Dieu. Je suis sûr que vous avez votre part dans cette église. Grande, petite, il n'y a pas de grand et de petit. L'essentiel, c'est d'obéir à Dieu et de servir le Seigneur. Ça, c'est la mission, on va dire, vers l'intérieur. Mais la Bible nous parle d'une mission aussi vers l'extérieur, hein, Matthieu 28, 19, qui d'aller vers le monde et d'annoncer la bonne nouvelle, aller parmi les nations. Alors, nous, on ne va pas aller avec notre frère Pierre jusqu'en Ukraine, parce qu'on est bien ici, hein, il fait chaud. Mais voilà, Dieu lui a confié cette mission, mais... Nous, notre nation, on pourrait dire, c'est Étampes, Chauffour, enfin, toute la région. Hein. Spurgeon disait une chose, enfin, quelqu'un parlait de Spurgeon plutôt, il disait, l'ardeur de Spurgeon apparaît dans cette déclaration, hein. Spurgeon, c'est un grand prédicateur, il disait, je me suis efforcé de parler comme à quelqu'un qui va mourir lui-même, à quelqu'un d'autre qui va aussi mourir. Mais pas dans le sens où lui, il va mourir, mais va auprès du Seigneur, mais je parle à quelqu'un qui, pour l'instant, ne va pas auprès du Seigneur. Et il faut que je lui en parle. Il faut absolument que j'en parle. Parce qu'on regarde les autres souvent, moi je suis chrétien, je suis sauvé, et puis bon, bah, tant pis pour les autres. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se retrouvent en enfer. Alors c'est pas forcément notre faute, parce qu'ils ont aussi leur choix à faire. Mais peut-être qu'on n'en a pas assez parlé non plus. Je pense que Dieu va nous faire des reproches à un moment. Parce qu'on est timide, parce qu'on n'ose pas parler, parce que, je sais pas parler, hein, comme Moïse. Je pense qu'à un moment, le Seigneur nous fera des reproches. On n'est pas tous évangélistes, mais le Seigneur n'a pas demandé d'être évangéliste. Il dit simplement de témoigner de la grâce que Dieu a faite dans ma vie. Et ma manière de vivre, déjà, va être un sacré témoignage par rapport à ce monde aujourd'hui, la moralité, etc. Ça, c'est mon rôle. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs ? Hein ? Non, ça ne vous fait rien. Si vous étiez vraiment ambassadeur, à mon avis, avec l'avion et tout ça, derrière, tout le faste qu'il y a, hein, je crois que vous comprendrez un peu mieux, mais nous sommes ambassadeurs. C'est un travail que Dieu nous demande, parce que nous, on fait partie de la patrie céleste, et on va parler justement de cette patrie céleste à ceux qui veulent bien entendre. Et pour annoncer, comme dit Paul, la réconciliation. Comprends qu'aujourd'hui, sans Dieu, Dieu est en colère contre toi, et tu risques d'aller en enfer. Parce que c'est comme cela, et Dieu est juste. Mais par contre, tu peux être réconcilié avec Dieu. Tu peux l'accepter dans ta vie. Et pour ça, il faut se repentir. Comprendre qu'on est pécheur. Un pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui a justement, qui a tué, hein, ou volé. C'est quelqu'un qui a menti un jour, qui a eu une mauvaise pensée. Et ça, ça l'a séparé de Dieu. Mais Dieu a dit, bon, il aurait pu nous laisser dans cet état, mais il a dit non, je veux vraiment me réconcilier avec toi et t'offrir la grâce et la possibilité d'être sauvé. Le problème, c'est qu'il faut qu'on réponde à cela aussi. Mais il faut le comprendre d'abord. Sommes-nous ambassadeurs de cette réconciliation et comment croiront-ils si on ne leur parle pas? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, j'ai fait des sondages des fois dans les rues, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une Bible. Alors, parlons pas de Jésus, hein, un footballeur, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est à nous, c'est notre mission d'aller dans ces rues, dans le travail où Dieu m'a placé, dans ma famille, et d'annoncer justement cette réconciliation. Vous savez, l'Église a coûté la vie de Jésus. Hein. On vient tous les dimanches, on prie, c'est chouette. Mais quelqu'un est mort pour que nous puissions nous réunir, que nous puissions chanter, que nous puissions nous réjouir ensemble, vivre cette communion fraternelle, naître de nouveau et tout ça. Quelqu'un est mort pour cela. Alors, je pense que la dimension de l'Église, elle est autre quand on a vraiment compris cela, qu'il y a un sacrifice au départ et que Dieu a tout fait pour que justement cette Église soit bâtie. Ça mérite notre respect, l'Église, non? Un plus grand respect, peut-être. À partir d'aujourd'hui, j'espère. Ça mérite le respect, ça mérite aussi le service, pas dans le sens où on va servir pour servir, mais parce que je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi au travers de Jésus-Christ. Quelqu'un est mort pour moi. Ça mérite un peu de reconnaissance, non? Un peu? Plus, hein, normalement. Ouais. Non, on va le dire là, puis demain, c'est passé. Ça mérite toute notre reconnaissance, et la reconnaissance pour moi se développe, on va dire, dans le service, dans ce que je vais faire pour le Seigneur, chercher mon don, chercher ma place dans l'Église. Pour terminer, on pourrait parler beaucoup de l'Église, mais ce n'est pas le propos ce matin, mais la Pentecôte rappelle justement l'inauguration de l'Église et la réception du Saint-Esprit. Quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé le jour de la Pentecôte. À partir de là, les disciples, ils vont commencer à évangéliser et avoir une assurance qu'ils n'avaient pas avant. Ils vont faire des miracles, mais c'était propre aussi aux apôtres dans certains cas. Il y a des choses qu'ils avaient eux, mais que nous n'avons pas, parce qu'on n'en a plus besoin forcément. Mais ils vont annoncer l'Évangile et l'Évangile va se propager jusque en Russie, jusque là où Dieu veut bien le propager. Et c'est formidable de voir le travail que Dieu a fait avec ces chrétiens. Vous savez, les premiers chrétiens, ils étaient prêts à mourir, bouffés par des lions, brûlés comme un flambeau là, pour Néron, parce que ça faisait une lampe torche. C'est ça, les premiers chrétiens. Et aujourd'hui, le chrétien, c'est fatigué, il faut aller à l'église aujourd'hui. Hein. On est pépère, hein. Trop pépère, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être qu'on soit persécuté pour comprendre ce qu'est vraiment l'église et l'amour qu'on devrait avoir pour l'église. Alors, je ne vous souhaite pas la persécution, évidemment, mais comprendre qu'il y a une profondeur là, souvent elle passe bien à côté de nous. Hein. On a dit que le parler en langue, c'était un signe pour les juifs d'un jugement qui était accompli, et je pense qu'il n'a plus raison d'être aujourd'hui. Le chrétien, par contre, est appelé à vivre rempli du Saint-Esprit, rempli. Vivre cette plénitude du Saint-Esprit, non pas qu'il doit le remplir parce qu'il est là, mais simplement le laisser faire dans sa vie, par mon obéissance. On l'a vu hier, le Saint-Esprit veut me transformer. Hein. J'étais dans un état de pécheur. Aujourd'hui, je peux être transformé, changer mes habitudes, mes péchés, m'en débarrasser même. Tous les esclavages que j'avais, je peux m'en débarrasser parce que c'est le travail que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant qui se laisse faire. Parce qu'on résiste, hélas, bien souvent. Et celui qui justement se débarrasse de son péché, se rend compte que « Ah, ben mentir, ça fait du bien, parce que je n'ai pas besoin de mentir une deuxième fois, ou alors je ne vais pas avoir de culpabilité, etc. etc. » Finalement, se débarrasser du péché, c'est finalement vivre mieux. Et quand je me débarrasse de tout ce péché, le Saint-Esprit est content, et moi je suis dans la plénitude justement du Saint-Esprit. Mais la Bible dit aussi qu'un jour, Jésus va enlever l'Église. Il y a une vidéo qui circule sur Internet, hein. Justement il y a un pasteur qui parle, et d'un coup, pouf, les vrais chrétiens disparaissent de la salle. Il y a 3-4 qui sont là, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais un jour, l'Église sera enlevée. Ce n'est pas à confondre avec le retour de Christ. Ça se fera plus tard, quand Jésus posera ses pieds à Jérusalem. Là, le monde entier le verra, sur Facebook, et tout ça aujourd'hui. Hein. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais l'Église, l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui sera soudain et rapide. Mais ça se verra certainement, parce que si vous êtes pilote d'avion et chrétien, ça posera un petit problème. Ou si vous êtes en train de rouler, ouais, mais si vous êtes en train de rouler, vous avez votre famille, que vous êtes le seul chrétien, ça va poser aussi un problème. Ça va te pousser peut-être à se convertir, ou à arrêter de rouler, à vous de voir. Mais un jour, nous serons enlevés, et ça c'est, dit Paul, l'espérance du chrétien. C'est la joie du chrétien, savoir qu'un jour, je serai avec le Seigneur pour l'éternité. Ça vous réjouit? Ça vous parle? C'est vraiment votre espérance? Vous imaginez face à Jésus-Christ un jour? On ne fera peut-être pas les fiers hein, au départ. Mais en tout cas, c'est notre joie et c'est notre espérance. Et ce qui est formidable, c'est qu'on le vivra réellement. On sera avec le Seigneur une fois pour toutes. Mais en attendant, le Seigneur nous a donné cette mission, que toute cette joie qu'on peut avoir, toute cette espérance, ben, faisons profiter les autres en témoignant et en annonçant la bonne nouvelle. Le Seigneur nous aide dans ce travail. Il y a du boulot, je crois, de plus en plus difficile. Mais par son esprit, justement, il va nous aider à annoncer la bonne nouvelle. On va prier. Seigneur, nous voulons nous réjouir de nous remémorer cette création, cette fondation de l'Église, ce que toi tu avais désiré et prévu depuis bien longtemps, et que tu as fait à la Pentecôte, Seigneur, en donnant ce consolateur, en donnant ton esprit à ton Église. Seigneur, merci pour ce consolateur, parce que tu as dû partir, mais tu ne nous as pas laissés seuls, et merci pour ce Saint-Esprit qui veut à la fois nous faire du bien, nous reprendre, nous faire marcher droit avec toi, nous transformer. Et apprends-nous à le laisser faire dans notre vie. Apprends-nous aussi à chercher justement ce don, ce charisme, ce service que tu veux que nous ayons dans l'Église pour servir, pour faire grandir ton Église, pour la faire travailler. Et aussi surtout par reconnaissance pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui ne te connaissent pas, Seigneur, et montre-leur toute la joie de te connaître, tout l'amour aussi que tu leur portes, malgré nos péchés, malgré notre rébellion. Tu ouvres la porte à qui veut bien se repentir, Seigneur, et par cela tu donnes alors ton Saint-Esprit. Et comme le dit Éphésiens 13, nous sommes scellés du Saint-Esprit, Et c'est le gage de notre rédemption, c'est la garantie, on pourrait dire, de savoir qu'un jour nous serons à côté de toi. Mais la joie, justement, de cette espérance dans notre cœur aujourd'hui et tous les jours, pour être plus reconnaissant et simplement pour vivre ce que tu nous demandes de vivre et la joie, tout simplement, de te connaître. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.